Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
J'aimerais poursuivre un peu la même pensée que le pasteur Bruno a partagée la semaine dernière. Parce que si nous devons vérifier nos racines, on a vu que c'était pour porter du bon fruit. Amen. Et le thème de ce soir s'intitule « Devenir fructueux ». Est-ce que tu sais que tu es destiné à devenir fructueux pour Jésus ? Tu es destiné à être fructueux. Jésus a dit « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits ». Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons donc demeurer en lui et nous allons porter beaucoup de fruits. Si aujourd'hui ta vie peut-être manque un peu de fruits, alors écoute le message de ce soir, celui de la dernière fois, accroche-toi à Jésus et ta vie ne peut que changer en mieux pour que tu puisses porter plus de fruits. Mais lorsqu'on parle de fruits, Jésus a dit « un bon arbre donne de bons fruits et un mauvais arbre donne de mauvais fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Donc Dieu désire que nous soyons tous des bons arbres qui portent de bons fruits. Et au lieu de parler uniquement de bons fruits, on peut parler aussi de bonnes œuvres. Porter de bons fruits, c'est aussi faire de bonnes œuvres, faire des bonnes choses dans la vie, faire des œuvres qui reflètent la gloire de Jésus, faire des œuvres qui transpirent, respirent le parfum de l'amour de Christ. Vous savez, il y a quelques semaines de cela, un de mes voisins est musulman et ils ont invité un imam venir prêcher dans la cour d'à côté. Et curieux, je me suis mis quand même un peu à écouter ce qu'il disait. Et cet imam encourageait les gens qui étaient là, donc les musulmans qui étaient là, à réellement faire de bonnes œuvres. Et il leur disait, c'est important de faire des bonnes œuvres, parce que votre place au ciel dépend de ces bonnes œuvres. Donc il faut faire de bonnes choses. Gloire à Dieu, il parlait de bonnes choses. Il ne parlait pas de faire de mauvaises choses, il parlait vraiment de faire des choses bien. Et disait, votre place au ciel dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Il leur disait, votre vie au ciel pour l'éternité dépend de ce que vous allez faire sur terre. Et il mettait l'emphase là-dessus. Il mettait l'emphase sur l'éternité. Il mettait l'emphase sur la vie d'après. Et il incitait ceux qui l'écoutaient à agir bien. Et je me suis dit, waouh! À être de bons musulmans, se préférer. À partager, à venir prier à la mosquée, à venir à faire le ramadan. Il leur disait, faites ces choses-là, et alors vous pourrez aller au ciel. Autrement dit, alors vous pourrez être sauvés. La différence avec nous, comme vous le savez, c'est que nous n'avons pas besoin de faire des bonnes œuvres pour être sauvés. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos bonnes œuvres. Nous sommes sauvés à cause de son œuvre à la croix. Nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ a fait une œuvre qui a racheté tous ceux qui croient. C'est par la foi que nous sommes sauvés, afin que personne ne se vante, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes sauvés donc par grâce, et non pas par nos œuvres. Éphésiens 2:8 nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, de nos efforts. C'est le don de Dieu. C'est immérité. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne se vante qu'il est au ciel parce qu'il a bien agi. Mais il est au ciel parce que Jésus a bien agi envers nous. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de toujours se rappeler que nous sommes sauvés par grâce, afin que personne ne se vante. Tu n'es pas sauvé à cause de ta propre bonté. Tu es sauvé à cause de sa bonté, parce que tu crois en sa bonté envers toi. C'est sa bonté qui te rend et qui me rend juste. C'est son sang qu'il a versé qui nous justifie, pas nos œuvres. Romains 5, verset 8 nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant, tout le monde dit maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes justifiés par son sang. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es justifié par son sang. Le sang de l'agneau, le sang du sacrifice de Jésus, vaut tous nos sacrifices que nous pouvons faire. Par un seul sacrifice où il a versé son sang, il nous a sauvés. Le sang de l'agneau, c'est ce qui nous distingue de toutes les autres créatures, même des anges. Il nous a marqués avec son sang. Il nous a marqués de sa grâce. C'est par son sang que nous sommes justifiés. À l'époque de l'Ancien Testament, lorsque vous lisez « Quelqu'un avait péché », on sacrifiait un animal, pas le gars qui avait péché. Gloire à Dieu. Dommage pour l'animal. Mais celui qui avait fait une faute, c'était l'animal qui était sacrifié pour que lui soit justifié. Et Jésus est l'agneau immolé. C'est par son sang que nous sommes justifiés, qu'il nous a rachetés et que nous sommes, et que nous, écoutez bien ceci, nous sommes justifiés, nous sommes, c'est le moment présent, mais que nous serons sauvés par lui de la colère. C'est le futur. Que nous serons sauvés par lui de la colère. Par son sang, Christ révèle ta valeur. Aucune autre créature dans les cieux et sous les cieux n'a la valeur du sang de Dieu, Jésus-Christ. Les hommes qui croient en Jésus-ci et ceux qui croient en lui, les marquent de son sang. Et quand on est marqué de son sang, cela révèle aux autres créatures ta valeur. Ça, le sang de l'agneau révèle ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Il n'a pas fait ça pour les anges. Il a fait ça pour toi et pour moi. Le sang de l'agneau dit à l'ennemi, attention, stop, c'est un enfant de Dieu. Si tu touches, attention au retour de flamme, au retour de bâton. Parce que n'oubliez pas, quand l'apôtre Paul, qui avant était Saul, persécutait l'Église, Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas et il persécutait les chrétiens de l'Église dans Acte 9. Et Jésus lui dit, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus identifie l'Église à lui, l'Église est le corps du Christ. Celui qui te touche, touche à Jésus. Et il va avoir autour de flammes dans sa tête. Parce qu'on est marqué du sang de l'agneau. C'est pour ça que nous sommes sauvés. Et Jésus est devenu notre justice. Il est devenu notre rédemption, notre sagesse. On est marqué par son sang. Le sang de Jésus crie, tout est fini, tout est accompli, c'est bon. Ils sont maintenant justifiés, ils sont maintenant pardonnés pour tous ceux qui croient. Ma question c'est, si grâce au sang de Jésus nous sommes justifiés, cela signifie qu'il a été jugé pour que nous puissions être justifiés. Donc ma question c'est, si Jésus a été jugé pour nous, alors est-ce que nous serons toujours jugés ou pas? La réponse est oui. Nous serons quand même toujours jugés. Mais nous ne serons pas jugés pour savoir si on va aller au ciel ou en enfer si tu crois en Jésus. Pourquoi donc nous serons jugés? Pour nos bonnes œuvres. Par nos fruits. Nous serons jugés par nos fruits. Oui, nous sommes sauvés par grâce, mais nos œuvres comptent. C'est important de comprendre ça. Oui, nous sommes sauvés par son œuvre. Cela ne signifie pas que nos œuvres ne comptent plus. Nos œuvres comptent. Nous avons notre part à faire. J'ai déjà dit, si Jésus a tout accompli, cela ne signifie pas qu'on n'a rien à accomplir. Tu as ta part, j'ai ma part. Philippiens 2, 12 nous dit, « Mes chers amis, vous avez été obéissants, faites donc fructifier votre salut. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. » On a reçu le salut, c'est-à-dire on est sauvé par sa grâce. Mais il est en train de dire, il faut que cette grâce-là, à l'intérieur, ce salut qu'on reçoit, il faut qu'il porte du fruit. Il faut qu'il sorte de l'intérieur et qu'il se manifeste dans nos actions, dans notre attitude, dans notre comportement. Il faut faire fructifier cela. Je reprends Éphésiens 2, 8 qui nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. » Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais regardez le verset suivant. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour de bonnes œuvres. Donc, il nous a sauvés. Pourquoi ? Pour de bonnes œuvres. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. La particularité dans ce groupe de mots « bonnes œuvres », c'est le mot « bonne ». Ce qu'il y a de bon dans les bonnes œuvres, c'est qu'elles sont bonnes. Pas juste pour des œuvres, encore moins pour des mauvaises œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Et c'est là qu'il est important de faire une distinction. Il est important de faire une distinction en ce que nous croyons et comment nous nous comportons. Il est important de faire une distinction entre ce que nous croyons et comment nous nous comportons. Vous savez, ce que nous croyons révèle où nous allons passer l'éternité. Comment nous nous comportons révèle comment nous allons passer l'éternité. Ce que nous croyons révèle où nous allons passer l'éternité. Comment nous nous comportons en tant qu'enfants de Dieu révèle comment nous allons passer notre éternité. Il est important pour nous de comprendre. Jésus a pris le jugement du péché et le salaire du péché, c'est la mort. Il a pris ça pour que nous puissions recevoir la vie et vivre éternellement auprès de lui. Mais cela ne nous excuse pas de pratiquer le bien et de prendre la grâce pour faire ce que bon nous semble. La grâce n'est pas une excuse pour pécher. La grâce est une force pour vivre une vie juste. Et ça, c'est bon pour nous de comprendre. Il y aura donc deux types de jugements devant Jésus-Christ un jour, qui est, je vous le rappelle, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. La Bible dit, Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Gloire à Dieu si tu es mort et que par la puissance de Jésus tu es ressuscité et tu as revécu une deuxième fois, mais Le principe est qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, le but de ce message, ce n'est pas de créer en toi une peur, mais de te révéler, de mettre en évidence ce que Jésus a fait pour nous éviter le mauvais jugement. Et de te permettre de connaître en quoi consiste le second jugement qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu. Parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent, et c'est un message de base, mais c'est un bon rappel. Mais peut-être que certains ne connaissent pas, alors gloire à Dieu, parce que vous allez l'entendre. Vous savez, la Bible dit que Jésus est celui qui va juger les vivants et les morts, les justes et les injustes. 2 Timothée 4, 1 nous dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition dans son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » L'apôtre Paul dit à Timothée, « Je t'en conjure, Timothée, je t'en supplie, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va venir juger les vivants et les morts. » Il est important pour nous de comprendre, ici ça ne veut pas dire uniquement les vivants qui seront vivants lors du retour de Jésus-Christ. En réalité, ça parle des vivants qui sont vivants en Christ même lorsqu'ils sont déjà morts. Et c'est Jésus qui nous parle de cela dans Jean 11, verset 25. Il dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Crois-tu cela ? Jésus dit, « Mais quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il croit en moi, il vivra même s'il est mort. » Ceux qui meurent en Jésus-Christ restent en vie. Ils changent juste d'état, juste de lieu. C'est un passage vers l'éternité. Et souvent, c'est vrai qu'à l'Église, on peut-être parfois ne parle pas assez de l'éternité. Et qu'il faut ramener cette pensée aux enfants de Dieu pour nous apprendre à vivre notre vie d'aujourd'hui à la lumière de l'éternité. Parce que ta vie et ma vie n'est qu'un souffle. Même si tu vis 120 ans. Et comme le pasteur Bruno aime dire, je veux vieillir avec vous. Gloire à Dieu. Moi aussi. Mais j'ai envie de passer l'éternité avec vous. Parce qu'on sera jeune dans le ciel. On va même plus reconnaître Henri Paul. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Qu'il nous faut vivre notre vie d'aujourd'hui à la lumière de l'éternité. Il viendra juger les vivants et les morts, c'est-à-dire ceux qui sont vivants en Christ, et ceux qui sont morts, c'est-à-dire séparés de Dieu, séparés de la vie, parce que Jésus est la vie. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Celui qui n'est pas uni au Christ, malheureusement, n'est pas uni à la vie. Et Jésus dit « Va venir juger les deux. » Et nous devons donc comprendre ceci. C'est sur terre que nous décidons, que nous déterminons devant quel tribunal nous voulons passer. C'est sur terre que nous décidons quel jugement nous allons recevoir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants de Dieu ne seront pas jugés à cause de leurs péchés. Oublie, il n'y a pas un péché que toi ou moi on peut faire si on ne demande pas à Jésus pardon, qu'il ne nous pardonne pas. Parce que son sang est bien plus puissant que n'importe quel péché qu'on peut faire. Il a payé le prix. On pourrait arriver à dire, mais Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait de mal. Et lui va dire, mais regarde tout ce que j'ai fait de bien. Et ce que j'ai fait de bien surpasse ce que tu as fait de mal. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais néanmoins, il nous faudra passer quand même devant un jugement. Celui de nos œuvres. Donc on va voir ce qui se passe au tribunal de Christ pour les croyants. pour nous inciter à devenir plus fructueux. 1 Pierre 1,17 nous dit: si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Si vous invoquez comme père, ça parle de qui là? Des enfants de Dieu. Dieu le créateur de tous les hommes et le père de ceux qui croient en Jésus-Christ son fils. Il dit: si vous, qui ici me dit moi j'invoque Dieu comme mon père, levez la main. Amen. Ça te concerne. Ça nous concerne. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. C'est qui chacun? C'est toi et moi. Selon l'œuvre de chacun. Chacun. Toi et moi. Celui qui invoque Dieu comme père, alors ce père-là va juger selon l'œuvre de chacun. Sans préférence, sans acceptation de personne. C'est pas qui préfère le pasteur, le ministère, pas du tout. Pire, le ministère et surtout comme moi, ceux qui enseignent, la Bible dit qu'on sera jugé plus sévèrement. Et ça, c'est dans Jacques 3. C'est un passage, lorsque j'ai lu au début de ma vie chrétienne, qui m'a freiné pour rentrer dans l'appel de Dieu. Parce que je n'avais pas envie d'enseigner à cause de ça. Et souvent, je rappelle à Dieu. Je n'ai pas voulu enseigner, moi. C'est toi qui m'as appelé. Juste obéi. Alors, aide-moi, je te prie. Parce que ça ne changera rien quand même à ce qui est écrit. Aide-moi. Par ta grâce. Sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant votre pèlerinage. Votre séjour. Toi et moi, nous sommes en séjour, en vacances sur terre. Peut-être que tu ne savais pas, tu es en vacances depuis longtemps peut-être. C'est des longues vacances. Mais ici, dit, s'il te plaît, le verset précédent, je reprends tout. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang. Mais par le sang. Mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il nous a rachetés. Et dit, mais si vous appelez Dieu maintenant étant racheté Père, n'oubliez pas quand même qu'il va juger l'œuvre de chacun. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus revient, oui, pour qu'on vive l'éternité dans la gloire avec lui. Amen. Mais il va rendre à chacun selon ses œuvres. 2 Corinthiens 5, verset 9 nous dit: c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous, tout le monde dit tous, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit à vous partager ça ce soir, pour vous convaincre et vous dire, hey, oui, nous sommes sauvés par grâce. Oui, il a fait de nous ses enfants. Oui, il nous a rachetés par son sang précieux. Mais malgré cela, ce n'est pas parce qu'il a fait cette œuvre extraordinaire qu'on n'a plus d'œuvre à faire. Mais bien plus, nos œuvres, il va les juger. Non pas pour nous saquer, mais en réalité, c'est parce qu'il veut nous bénir en fonction de ce qu'on aura fait. Ecclésiaste 12, 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Apocalypse 22, 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Dieu a des récompenses pour toi, pour l'éternité. Passe pas à côté. Il dit, je reviens bientôt et j'emmène avec moi mes récompenses pour Henri-Paul, Sylvia, Philippe, Jean-Max, Babette, Pierrot et chacun d'entre nous. Il amène avec lui des récompenses. C'est pour ça que nos œuvres aussi comptent. C'est pour ça que je t'encourageais à devenir fructueux. Si tu es fructueux, le premier bénéficiaire pour l'éternité, ce sera toi. Comprenez bien ceci. Quand il parle de récompense, au ciel, la frère et sœur, on ne va pas être comme on voit parfois dans les films sur un nuage en train de jouer de la harpe. Avec une grappe de raisin en train de dire « c'est cool ». Et on ne sera pas sur un nuage, les mains levées tout le temps, en train d'adorer. Oh, c'est pas ça. Si tu as cette image du ciel dans ta tête, tire-la de ta tête. Jésus dit qu'il va réunir le ciel et la terre et il va amener des récompenses. Et parmi les récompenses, il va donner à certains le gouvernement de villes en fonction de leur sœur. Gouverner une ville, c'est pas jouer de la harpe. Hein. Pour les croyants, il y a les récompenses. 1 Corinthiens 3, 10 nous dit « Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. » C'est qui chacun ? C'est nous ! On croit que c'est Apollos ici dans le contexte. Le chacun, c'est nous. Le fondement, c'est Christ. Et la façon dont on va bâtir dessus, c'est chacun de nous. Comment bâtis-tu ta vie sur le fondement qu'est Jésus-Christ ? Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun, encore une fois, sera dévoilée. Le jour du jugement le fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un a été construite sur le fondement, elle va subsister et il recevra une récompense. C'est clair. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ici, la parole de Dieu dit, hey, c'est pas le salut que tu perds. Si le fondement reste Christ, si le fondement reste Christ, ce que tu perds, c'est tes récompenses. Et ce jour-là le révélera. Et personne ne pourra se cacher. On n'arrivera pas avec une étiquette. J'étais pasteur, moi, extravagance. J'étais un tel, j'étais leader, j'étais ci. Oublie. Comment bâtis-tu sur le fondement qu'est Jésus-Christ ? Comment bâtis-tu ta vie sur le fondement qu'est Jésus-Christ ? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui appelle Dieu Père, car il rendra chacun selon ses œuvres. Et si le fondement reste Christ, il ne perdra pas son salut. Il perdra la récompense, comme au travers du feu. Vous savez, il y a des choses dans notre vie de tous les jours qui n'ont pas de valeur éternelle. C'est ces choses qui vont brûler. Mais les choses que nous faisons pour rendre gloire à Jésus, comme on a chanté tout à l'heure, par ma vie soit élevé. Quel magnifique chant! Ça signifie par ce que je fais et ce que je suis, soit élevé. Que tout ce que je suis et que tout ce que je fais te rendre gloire. Pour que ce que je fais subsiste et ait une valeur éternelle. Et résiste à l'épreuve du feu. 1 Jean 2:28 nous dit, mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Pourquoi ici, la parole de Dieu dit que certains pourront être honteux? Ça parle d'être déshonoré. Ça parle en réalité de perdre la récompense. Ça parle de ça, ça parle de quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, je t'aime, je crois en toi, seulement ma vie, elle est à moi. Je me sers de toi pour ma vie à moi, au lieu de servir ma vie à moi pour te servir toi. C'est quelqu'un qui vient peut-être à l'église, qui aime le Seigneur, mais qui gaspille sa vie. Et Dieu nous aime pourtant. Et la Bible dit à ce moment-là, il risque d'être honteux. Je prie pour que ça n'arrive à personne qui entend ce message ce soir. Jacques 2 dit, 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comment tu vis en tant que chrétien ? C'est important. C'est important. Nos œuvres sont importantes. Jésus dit, si quelqu'un donne un petit verre d'eau au plus petit d'entre les miens, il ne perdra pas sa récompense. Maintenant, on va voir ce qui se passe au tribunal de Christ pour les non-croyants. Apocalypse 20, 11. Ensuite, je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis, le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaître devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Il y a des livres et le livre qui sont ouverts à ce moment-là. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui est inscrit dans ces livres, c'est-à-dire dans les livres, pas dans le livre de vie, dans les livres. Nos actes sont inscrits, sont enregistrés comme sur un DVD. On croit, non? La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Vous savez, ça parle ici, autant que pour les enfants de Dieu, ils vont être jugés en fonction de leurs œuvres. Pour le niveau de récompense, pour l'éternité, ça parle ici de ceux qui ne croient pas dans le Seigneur, ils vont être jugés dans un différent degré de sévérité. Un gars qui est un bon gars, mais qui dit, moi, je refuse de croire en Jésus-Christ, et qui veut être sauvé par ses propres œuvres, malheureusement, il ne comprend pas que la seule façon d'être sauvé, c'est par la foi en Jésus qui a versé son sang. Mais ce gars-là n'aura pas le même degré de punition qu'un Hitler, si ce n'est pas repenti avant de quitter ce monde. La preuve dans Matthieu 11, verset 20. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Moins sévèrement. La punition va être moins sévère. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Je ne sais pas s'il faut dire amen ou à moi, mais... Et je comprends que le message paraît un peu sévère, mais vous allez voir, ce n'est pas la sévérité. Dieu est un juste juge. Et il donnera à chacun selon ses œuvres, en bien et en mal. C'est un juste juge. Il est juste pour toi et pour moi. Peut-être que tu n'as pas vu sa justice se manifester aujourd'hui par rapport aux événements que quelqu'un t'a fait ou quelque chose comme ça. Mais l'histoire n'est pas finie. Garde confiance en lui. C'est un juste juge. Et pour nous éviter le jugement pour aller en enfer en éternité, il a pris nos péchés sur lui. Il s'est fait homme. Il y a une histoire d'un jeune homme qui... Son père vient le chercher à l'école, mais son père arrive un peu en avance. Et... Il s'est mis dans un coin où il pensait que son père n'allait pas le voir. Et il est peut-être vers le collège, quelque chose comme ça. Et il commence à fumer. Ah, il fume. Et son papa arrive. Et quand son papa voit, son papa ne dit rien et regarde en cachette pour voir combien lui ça fumait. Et son papa le récupère, ne dit rien, arrivé chez lui, il dit « Je t'ai vu fumer ». Et il dit, ah, tu sais, papa, j'ai pas, excuse-moi, j'ai vraiment essayé, tu sais, mais c'est pas mon truc, la cigarette, pas vraiment mon truc. J'ai crapoté un peu, j'ai deux taffes. Le papa le regarde, lui dit, mais je suis resté longtemps, je t'ai vu fumer 7 cigarettes. Et deux taffes. Je t'ai vu fumer 7 cigarettes. Et le papa lui dit, je vais te priver de sortie pendant 7 week-ends, un week-end par cigarette. Heureusement, il n'y a pas fumé 10. Et là, ce jeune homme dit, si j'avais su que mon papa me regardait, si j'avais su que mon papa me voyait. Nous croyons à tort que Dieu ne voit pas. J'aimerais te rappeler que toi et moi, nous devons apprendre à vivre devant une seule audience. La Bible dit que les ténèbres pour lui sont lumière. Et que si Dieu désire connaître, rien ne peut lui rester caché. On ne pourra pas dire au jour du jugement, « Ah, j'ai crapoté un peu. Ah, je me rappelle plus. J'ai fait ça moi. » Mais Dieu est un bon Père. Il t'aime. N'oublie pas, Jésus a fait de la mort. La Bible dit, après la mort, il y a le jugement. Mais Jésus a fait de la mort une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ est mort pour justement que l'homme arrête d'avoir peur de la mort. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la croix. Dieu s'est fait homme et il a été crucifié. Et à la croix, il a versé son sang. Et son sang versé à la croix a mis un arrêt de mort à la mort. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Jésus-Christ a triomphé. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a sauvé et m'a sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Il ne veut pas que nous ayons peur de la mort ou du jugement. Ce n'est pas son cœur. Le problème, c'est que parfois à l'église, nous ne parlons peut-être pas assez de la mort. Et quand la mort frappe, les enfants de Dieu manquent de confiance, de foi et de force, même si c'est dur. Quand la mort frappe dans la famille, c'est dur. Mais prépare-toi. Parce que plus le temps passe, plus ce qu'on aime, ou toi ou moi, on va partir pour l'éternité. Et avec, je veux vieillir avec vous, oui, mais je veux vivre pour l'éternité avec vous. Et j'ai envie de voir mes enfants, j'ai envie de te voir pour l'éternité, j'ai envie de voir les gens que j'aime avec moi pour l'éternité, parce que je sais la douleur que ça fait de perdre un être cher. Mais Jésus est ressuscité. Il a triomphé. Il est vivant. Il a versé son sang pour quiconque croit ait la vie éternelle, afin que personne ne se vante. Ce n'est pas à cause de mes efforts. Ce n'est pas à cause de tes efforts. C'est par le moyen de la grâce. Mais cela ne veut pas dire que nos œuvres comptent pas. Fructifie ton salut. N'aie pas peur de la mort ou du jugement. Ne sois pas focalisé là-dessus, mais sois focalisé sur l'amour qu'il a manifesté à la croix, pour que la mort n'ait plus de puissance sur nous, et que même ceux qui croient vivent, soient focalisés sur son amour pour toi. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ, comme on a chanté tout à l'heure? C'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il m'aime, qu'il nous a rachetés. Et il veut que toi et moi, nous puissions être fructueux, non pas parce qu'on a peur du jugement, mais parce qu'on l'aime, parce qu'on réalise combien il nous a aimés, et on a évité le pire du jugement. Mais il y en a encore un en cours. Proverbe 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Futur, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il t'aime. Tu es précieux. En tant qu'enfant de Dieu, arrête de gaspiller ta vie. Si tu entends ce message avec un cœur préparé ce soir, aucune condamnation. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Son désir le jour du jugement, c'est de dire « Yes, tu as été top !» Regarde pas tes péchés, regarde les œuvres que tu as faites pour me rendre gloire. Je vais te récompenser, mon fils. Je vais te récompenser, ma fille. Tu vas briller pour l'éternité avec ce que tu aimes autour de toi. Pour que nous puissions apprendre à vivre la vie de tous les jours à la lumière de ce moment. Et que quoi que nous puissions faire à l'église ou en dehors de l'église, si nous le faisons comme pour le Seigneur, on ne perd pas sa récompense. Quel amour, quelle bonté. Mais Romains 12, verset 22 nous dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Demeure ferme dans la bonté de Dieu. Demeure ferme dans la bonté de Dieu. Demeure ferme dans la bonté de Dieu. Sa grâce est une force, pas une excuse pour pécher. C'est une force pour vivre une vie juste. C'est un moteur. Ça nous en puissance. Il est bon. Son amour dure éternellement, nous dit les Écritures, et sa colère un instant. Romains 2, 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu veut te pousser à la repentance, à changer de vie par Jésus-Christ. Écoute bien le verset suivant. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Le manque de repentance crée un tacon avec un tas de colère. Mais la repentance nous ouvre les portes. Tu peux dire oui, Steve, oui, je crois en Jésus. Je viens à l'église, gloire à Dieu. Mais j'aimerais t'encourager, si tu crois en Jésus, à te rappeler que la foi sans les œuvres est morte. Et à ne pas tomber dedans ce piège de Tite 1,16 qui dit « Ils font profession de connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. » Profession d'être chrétien, mais le comportement, l'attitude prouve et manifeste le contraire. Dis non, arrête, refuse, crois en Jésus pour être sauvé. Vraiment, quelle est la condition pour croire? La repentance. La Bible dit repentez-vous et croyez. Repentez-vous et croyez. Parfois, on n'arrive pas à croire vraiment d'un cœur sincère parce qu'on ne se repent pas. On n'est pas touché, blessé d'avoir blessé Dieu. On n'est pas attristé d'avoir blessé Dieu. Et après, on manque de force pour changer de comportement et penser autrement. On manque de force pour pardonner. On manque de force pour dire « Je refuse maintenant. Seigneur, le péché que je fais, c'est contre toi. Pardon. Tu m'aimes. Et je ne veux pas mépriser ta bonté. Mais je veux que cette bonté me conduise à la repentance. Je ne veux pas me repentir parce que j'ai peur du jugement. Je veux me repentir parce qu'il est bon. Je ne veux pas changer parce que Dieu me fait peur. Je veux changer parce qu'il m'aime. Et il t'aime aussi. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît ?